Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Sommaire de ce magazine, la communauté de communes du Sisteronnais-Buëch reçoit le soutien du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Les interviews d'Eliane Bareil et Daniel Spagnou pour Force 7. Dans les Alpes de Haute-Provence, l'opération « Et pourquoi pas moi ?» propose un coaching personnalisé à des bénéficiaires du RSA. Interview de Camille Galtier et Aline Dagron dans un instant. Provence-Alpes-Agglomération a réalisé une passerelle himalayenne au-dessus de la Durance à Volonne. Le reportage de Chris Alessandri dans ce magazine. Cinéma de Pays et ses partenaires fêtent les 70 ans de la sortie du film Jeux interdits. Très majoritairement tourné dans les Basses-Alpes, Brigitte Fosseil est Paulette, la petite fille durant l'exode de 1940. L'actrice reviendra bientôt sur les lieux du tournage. Des éleveurs veulent créer un abattoir mobile dans le Luberon. Ils présentent leur projet au micro de Mathieu Marc. Jusqu'au 9 mai, Manosque retrouve la fête de la Saint-Pancras. Tradition et modernité sont au programme. La solidarité départementale pour Sisteronnais-Buëch.
La présidente du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, Eliane Bareil, poursuit son élan vers les communes et intercommunalités du 04 avec dans sa besace les fonds conventionnés de solidarité départementale. Des soutiens importants pour favoriser un développement équilibré, équitable et solidaire. 20 millions d'euros sur 3 ans auxquels s'ajoutent les 7 millions du plan bâtimentaire pour le service départemental d'incendie et de secours. Et c'est sur ce plan que la communauté de communes du Sisteronnais-Buëch percevra 1 700 000 euros d'aide pour la reconstruction de la caserne de Sisteron. Une somme qui s'ajoute au FODAC pour l'aide aux communes. Déjà 225 000 euros sont actés et également 855 000 euros d'accompagnement du département aux projets territoriaux. Concrètement, ce sont des subventions pour les maisons France Service de Sisteron et de la Motte du Caire, la restauration immobilière du Tirori à Sisteron ou encore la sécurisation en alimentation d'eau potable du réseau Nibles-Châteaufort. Peu de maires présents à la signature de la convention entre le département et Sisteronnais-Buëch, c'est dommage, mais il est vrai que le choix d'un rendez-vous en début d'après-midi est délicat pour des élus en activité. Ces derniers devront paraffer les conventions les concernant et délibérer dans chaque conseil pour ce faire. C'est ce que rappelle Eliane Bareil dans cette interview, puis vous entendrez Daniel Spagnou qui préside Sisteronnais-Buëch, mais aussi l'association des maires du 04 et qui s'inquiète des taux d'emprunt auprès des banques qui pourraient lourdement pénaliser les communes. Eliane Bareil, vous présidez le département des Alpes de Haute-Provence, un département qui vient en aide aux communes via le contrat de solidarité territoriale. Et ici, c'est au Sisteronnais-Buëch que vous apportez votre appui.
Oui, nous apportons notre appui ici à Sisteron, comme nous le faisons sur l'ensemble du territoire départemental, sur plusieurs volets, des volets qui concernent particulièrement les bâtiments du département, mais aussi tous les dossiers à destination des communes et de la communauté de communes pour des projets un peu plus importants ou des projets d'envergure qui vont au-delà de la frontière communale. Bien sûr, on intervient aussi sur les problématiques d'eau, d'eau potable entre autres, donc ça c'est un gros volet de ce contrat de territoire qui est loin d'être négligeable. Au total c'est 14 millions d'euros à peu près qui sont apportés à destination de l'ensemble des territoires du département, sans compter ce qui concerne spécifiquement le bâtimentaire départemental. Donc sur certains territoires, bien sûr, ça fait beaucoup plus, parce que s'il y a un collège ou une caserne, ça fait tout de suite beaucoup plus. Donc à Sisteron, nous sommes d'ailleurs intervenus pour la caserne. À d'autres endroits, ça peut être une caserne aussi ou un collège lorsque c'est nécessaire. En tous les cas, on essaye d'aborder cette problématique sur la base d'un échange, mais surtout d'un partenariat avec les communes, qui sont elles-mêmes, qui définissent entre elles le contenu de leur contrat de territoire. Ces contrats sont valables 3 ans et je viens de le rappeler au maire qui était présent. Il y a un impératif à déposer les dossiers puisque le terme des 3 ans sera vite là. Nous sommes déjà à 1 an et demi, c'est-à-dire à la clause de revoyure. Et il faut impérativement déposer les dossiers avant le 31/12/2023, faute de quoi l'enveloppe serait perdue et serait perdue pour la totalité du territoire, ce qui serait fort dommage.
Il y a des délais donc à respecter, mais aussi des règles puisqu'il faut que les communes délibèrent.
Il faut que les communes délibèrent, bien sûr, et il faut aussi qu'elles nous déposent un dossier de demande de subvention. Je ne sais pas si ça avait été très très bien appliqué et expliqué, mais ici, il n'y a que 2 communes qui n'ont pas délibéré, mais dans certains territoires, il y a vraiment énormément de dossiers qui n'ont pas encore été déposés. Donc, il faut faire attention de ne pas dépasser cette date butoir. Ça serait vraiment dommage que les communes puissent bénéficier de ce qui était prévu pour elles.
À vos côtés, le président de la communauté de communes Sisteron-et-Buëch, Daniel Spagnou. C'est une aide importante et conséquente du département envers vos communes.
Ah ben oui, c'est même très très important. Et puis ça montre aussi l'investissement du département pour notre département, qui est un département rural et de montagne. Et puis sans cette aide du département, malgré les aides de l'État et du conseil régional, on ne pourrait pas réaliser nos projets. Je vois l'opération Tirori, c'est-à-dire la maison des étudiants qu'on est en train d'aménager dans la rue Mercerie. Si j'avais pas eu les 150 000 euros de ce contrat du département, j'aurais pas lancé l'opération. Donc c'est très très important. Pour moi, est très important, c'est le dialogue permanent qu'il y a maintenant entre le conseil départemental et les maires, ce qui n'existait pas avant. Grâce à ce contrat, on se rencontre, il y a des réunions de territoire, on rencontre les élus, on rencontre la présidente du conseil départemental qui est continuellement sur le terrain. Et je crois que ça, c'est peut-être encore plus important que les subventions qu'on va obtenir.
C'est un dispositif qui était assez souple quand même.
Oui, c'est un dispositif même très souple, mais comme vient de dire la présidente, il faut absolument que les communes déposent les dossiers dans les dates voulues, parce que c'est un peu pareil pour le conseil régional. Moi, j'ai perdu une subvention comme ça, parce que pour un projet que je n'ai pas pu réaliser, j'ai demandé au conseil régional s'il pouvait me l'accorder sur un autre projet. Ils m'ont dit non, c'est perdu. Et c'est perdu pour tout le monde. Alors c'est vraiment dommage.
Vous avez également profité de l'occasion, Daniel Spagnou, pour transmettre une inquiétude en ce qui concerne les taux bancaires pour les emprunts.
Alors, les emprunts des collectivités, oui, parce que jusqu'à maintenant, on avait des taux fixes. Après une période, il y a quelques années, qui ont mis en grave difficulté certaines communes avec des taux variables. Or, à partir de maintenant, les banques nous ont fait savoir ce matin que, compte tenu de l'augmentation des taux, eh bien, on allait passer aux taux variables, ce qui est une catastrophe pour l'ensemble des communes et des intercommunalités du département. Donc j'ai alerté tout de suite l'AMF qui m'a dit « mais on est en train d'essayer de négocier avec le gouvernement ». Oui, pour moi, c'est extrêmement grave.
C'est un coup dur qui s'ajoute aussi à la dette des 10 milliards d'euros prévus par le gouvernement.
Ben oui, ça, on continue à prélever sur les collectivités. Il arrivera un moment où il n'y arrivera plus. Il n'y aura plus le compte. Et j'espère en tous les cas qu'après les élections, on pourra se mettre autour d'une table et puis discuter avec le gouvernement et lui faire comprendre que les collectivités ont besoin, au contraire, n'ont pas besoin d'être prélevées. Elles ont besoin d'être aidées, comme tout le monde d'ailleurs, par le gouvernement, parce qu'en ce moment, le prix du carburant, on le prend de plein fouet. Moi, c'est 250 000 euros de plus dans mon budget. Et je les prends où, les 250 000 euros ? Voilà. Ensuite, les matières premières qui augmentent. Tous les dossiers qu'on a actuellement, les projets, la maison de la santé, la maison étudiante, eh bien, les matières premières augmentant, on est obligé de placer des avenants très importants. Et là-dessus, on n'a pas de subvention. Alors, où on prend l'argent ? Ce qui fait qu'on est en train de voir, peut-être pour retarder certains projets de 3, 4 mois, 6 mois, en attendant que la situation s'améliore.
Coaching pour RSA dans le 04.
L'opération s'appelle « Et pourquoi pas moi ?». Le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence a été retenu dans le cadre d'un appel à projets financé par des fonds européens. Initiative Alpes-Provence a été chargée de la réalisation de l'affaire et s'est associée à Pro Attitude, une société spécialisée dans le coaching pour tous. et dans ces tous se trouve la cible de l'opération, des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Plus de 200 personnes ont été sélectionnées pour ce dispositif qui se décline en 42 ateliers journaliers collectifs et 310 heures de coaching individuel. Il s'agit de remobiliser les bénéficiaires vers un emploi, une formation ou une création d'entreprise. Appuyé sur le réseau des plateformes initiatives qui va faire le lien avec les entreprises du territoire, et pourquoi pas moi, recense et développe autant de projets de vie que de bénéficiaires du RSA. Sur les 4000 bénéficiaires que comptent les Alpes de Haute-Provence, c'est un contingent important de personnes motivées qu'Initiative et Pro-Attitude vont accompagner. À l'instar de Christelle et Margot, deux dynamiques jeunes femmes qui seront coachées pour réaliser des projets professionnels personnels. Elles étaient présentes à la conférence de presse du dispositif aux côtés de Jean-François Gonidec, qui préside Initiative Alpes-Provence, et Laurence Guillamot de Pôle emploi, présente également Aline Dagron pour Pro Attitude, que je vous propose d'écouter, mais d'abord, Camille Galtier, conseiller départemental chargé de l'insertion par l'emploi, évoque la dynamique du département envers les RSA. Camille Galtier, vous êtes conseiller départemental en charge de l'insertion par le travail. Et c'est un dispositif très innovant que vous avez lancé à Manosque et évidemment dans le département.
Alors évidemment, c'est une question au niveau territorial puisque il n'y aura pas que Manosque. Il y a Manosque, il y a Château-Arnoux-Sisteron, il y a Digne-les-Bains, il y a aussi les vallées reculées que ce peuvent être Riez, que peuvent être Barcelonnette ou Castellane. Et c'est un vrai dispositif territorial pour aller accompagner les personnes qui demandent à retourner sur le marché de l'emploi, mais qui, par des expériences de vie, des parcours professionnels inachevés ou qui se sont terminés de la mauvaise manière, soit en perte de confiance, qui ont des freins au retour à l'emploi. Et c'est là tout le sens du dispositif avec le Fonds social européen, ces 250 000 euros qui sont investis sur cette année 2022 à travers deux dispositifs, le dispositif Initiative Alpes-Provence qui va donner les clés du succès à la création d'entreprise ou au retour vers le marché de l'emploi, et avec un coaching spécifique avec Pro Attitude qui va donner la remise en confiance, donner les codes, ce qu'on appelle le savoir-être, qui va permettre à ces personnes-là de retrouver confiance en elles et de retourner sur le marché de l'emploi.
Alors c'est justement une cible très particulière, ce sont les bénéficiaires du RSA.
Ce sont les bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, c'est 200 personnes que l'on a ciblées. Ça sera aussi sur le volet volontariat. Ce sont des personnes qui ont envie de retourner sur le marché du travail. Et c'est là toute la différence. On aide les personnes qui veulent être aidées.
Ce qui est intéressant également, c'est de remarquer la transversalité de ce dispositif. On a Pôle emploi d'un côté, autrement dit le public. On a également Initiative Alpes-Provence qui est privée. On a aussi Pro Attitude, qui est une société privée, et puis bien sûr le département qui est public. Là, il y a une concordance d'objectifs.
Mais on a deux pourvoyeurs qui sont Pôle emploi et le département, et qui ont un maillage territorial très intéressant sur l'ensemble du département. Et il y a deux délégataires, en quelque sorte, Initiative Alpes-Provence sur le volet administratif, création d'entreprise, et le volet coaching par Pro Attitude, qui est un organisme agréé de formation.
Alors justement, Aline Dagran est à nos côtés pour Pro Attitude. Avant de parler de Pro Attitude, parlons de vos relations avec Initiative Alpes-Provence, que vous connaissez fort bien.
Alors, je connais Initiative depuis le début de la création de mon entreprise à Manosque, il y a 3 ans, cette société. Donc, je l'ai créée aussi avec des conseils d'Initiative et j'ai profité, comme bon nombre de créateurs d'entreprises, du support et des différents ateliers, des différents accompagnements de Initiative.
Avec un mot-clé qui est celui du réseau.
Du réseau, effectivement. Et je voudrais ajouter à ce niveau-là, sur le réseau, la chance qu'on a d'être dans le département des Alpes de Haute-Provence, parce que moi, en tant que chef d'entreprise, c'est facilitant, justement, d'avoir accès à un réseau de partenaires, de gens qui nous font confiance, et c'est un vrai booster pour la création d'entreprise.
Comment se passent les formations et le coaching que vous faites, particulier avec les personnes RSA ?
Alors, pour les bénéficiaires du RSA, on applique les mêmes techniques de coaching qu'on utilise avec un comité de direction dans une entreprise, avec une équipe commerciale dans une entreprise. C'est les techniques du coaching. Donc, le coaching, ça consiste à poser des questions et amener au travers des exercices des prises de conscience sans orienter les réponses et sans donner de réponses toutes faites. On utilise des jeux, beaucoup de ludiques. On est spécialisé en ludopédagogie. On essaye de sortir les gens de leur zone de confort pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et ensuite extrapoler ce qu'ils ont sorti dans ces jeux pour le transformer en un atout professionnel.
Vous avez eu des mots très forts en parlant d'eux, justement. Vous avez parlé de trésor.
Oui, pour moi, dans la plupart de ces personnes qui ont eu des parcours, c'est ce que dit Monsieur Galtier, le parcours de vie n'a pas toujours été très linéaire, mais il y a des gens vraiment qui sont des trésors. On a des artistes, on a des chefs d'entreprise qui ont eu un parcours difficile, on a des personnes qui étaient cadres, on a des personnes qui étaient dans des travaux plus agricoles, plus paysagers, et qui aujourd'hui physiquement ne sont plus en capacité de faire ces emplois-là. Et dans ces personnes-là, en fait, il y a des ressources où j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté et on ne les voit pas. C'est des invisibles, mais c'est des trésors quand même. Pour nous, il n'y a pas de différence entre eux et les gens qu'on accompagne en entreprise.
Alors, il y a deux personnes qui suivent votre coaching, justement, et qui ont parlé de votre bienveillance particulière, qui les met, justement, dans une relative confiance pour pouvoir poursuivre cette aventure.
Dans le coaching professionnel, c'est l'étape 1 de créer le lien, de créer la confiance et de créer cet espace où chacun peut être lui-même avec ce qu'il est, avec ses difficultés, avec ses freins. Si on n'instaurait pas cette bienveillance, alors c'est pas uniquement les coachs qui font cette bienveillance, c'est aussi le groupe qui accepte de participer. C'est pour ça que c'est un dispositif qui peut être que sur la base du volontariat. C'est tout cet ensemble, c'est ce collectif qui crée justement cet environnement de bienveillance par nous, mais entre eux aussi, énormément.
Camille Galtier, vous allez dresser une évaluation de ce dispositif à la fin de cette dynamique.
Moi, je suis pour le droit à l'expérimentation. Et toute expérimentation qui est une réussite, on le garde. Je dis souvent au sein de ma mairie que ce qui doit être supprimé, on le supprimera. Ce qui doit être amélioré, on l'améliorera. Et ce qui doit être créé, on le créera. Et bien, avec le département, c'est la même chose sur le volet insertion. Si ça marche, on le gardera.
Passerelle himalayenne enjambe la Durance à Volonne.
C'est l'aboutissement d'une longue démarche menée en concertation avec de nombreux partenaires et organismes publics et privés à l'initiative de Provence-Alpes Agglomération. Ce passage suspendu va permettre aux touristes du Val de Durance de pouvoir emprunter à pied ou à vélo un nouvel itinéraire pour rallier les communes de Volonne et Château-Arnoux-Saint-Auban. Le chantier de construction de la passerelle himalayenne qui enjambe la Durance est le projet phare de l'aménagement écotouristique de la retenue de l'escale porté par Provence-Alpes Agglomération. L'opération s'élève à 1 284 750 euros, dont 986 000 pour les travaux débutés en novembre dernier, et sera financée à 73% via des subventions. Le chantier s'étend sur un site à préserver et à valoriser car la retenue de l'escale constitue une entité paysagère remarquable située sur la Durance. Depuis la création du barrage de l'escale au début des années 60, cette zone humide artificielle a engendré un formidable réservoir de biodiversité. Responsable du développement touristique de Provence-Alpes Agglomération, Jérémy Subias, puis René Villard, maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, et Bernard Tessier, en charge du tourisme de l'agglomération, répondent aux questions de Chris Alessandri.
Il faut savoir qu'il y a à peu près 180 espèces d'oiseaux qui s'arrêtent ici dans leur cheminement de migration, ou qui hibernent, ou qui séjournent, etc. C'est un espace naturel sensible qui est classé au niveau du département, c'est une zone Natura 2000, c'est un site d'une valeur écologique qui est incroyable. Et l'objectif de Provence-Alpes Agglomération dans ce projet, ça s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de développement touristique qu'elle a écrite en 2018 jusqu'en 2025. On a un certain nombre de pépites naturelles sur notre territoire, sur lesquelles on veut mettre le paquet, plutôt que de faire des petites choses un petit peu partout. On a identifié un certain nombre de sites sur lesquels on mettre le paquet. Et dans la continuité de ce qu'avaient engagé les communes et la moyenne Durance, l'ancienne communauté de communes, on a identifié ce site comme étant un site emblématique sur lequel on va intervenir. L'objectif, c'est quoi? C'est de proposer des aménagements de qualité pour accueillir le public sur ces sites, comme ça a pu se faire, d'ailleurs pas très loin, au Pénitent des Mets récemment, comme ça a pu se faire sur la dalle aux Ammonites, comme ça peut se faire en dehors de notre territoire, dans les gorges du Verdon, Point Sublime, etc. Et donc on a pris attache auprès d'un maître d'œuvre qui est spécialisé dans ce type d'aménagement, qui s'appelle Éco-Oxygène, Pierre Tardieu. C'est lui qui a aménagé la dalle aux Ammonites, justement les Pénitents des Mets, et on veut aboutir à un espace avec une qualité d'accueil qui soit à la hauteur de la qualité du site. Ça, c'est la première chose. Et donc, ça se traduit par un certain nombre d'aménagements, à la fois la reprise des cheminements pour qu'on passe au plus près de la nature, donc la reprise des cheminements, la création de la passerelle qui a deux vocations, qui permettra d'une part de faire un petit tour plus court pour les familles, de 5 km au lieu de 10 km actuellement, mais qui sera également un élément d'attractivité touristique. Puis, on va aussi retravailler tous les départs, les accueils, les aires d'information, parce qu'aujourd'hui, c'est autour du lac, sur la route route. On ne sait pas que ça existe, donc on veut le valoriser. Donc ça passe aussi par de la signalétique pour dire que ça existe. Donc il y aura des points de départ qui seront installés sur chacune des trois communes et également des aires de découverte. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire il y aura des terrasses d'observation, des plateformes d'observation pour faire découvrir les oiseaux, les milieux de la Durance, les castors, la ripisylve, etc. Donc c'est vraiment un projet qui recherche au maximum à trouver le bon équilibre entre développement territorial d'un secteur et touristique et préservation et sensibilisation à l'environnement et à la biodiversité du site. Et c'est tout l'intérêt du projet et de la démarche de Provence-Alpes Agglomération, c'est d'arriver à cet équilibre intelligent. Et je pense qu'on a trouvé les bonnes équipes, les bonnes entreprises, les bons partenaires et le bon maître d'œuvre pour arriver à ça. Donc le l'achèvement des travaux prévu début juillet. Donc début juillet, tout le monde pourra emprunter la passerelle et faire tout le tour du lac avec la nouvelle petite boucle. Et puis dernière chose aussi, il y a également des locaux, il y a des touristes, il y a des pêcheurs, il y a des ornithologues, des campeurs. Donc on essaye de concilier l'ensemble de ces usages qui peuvent cohabiter, mais c'est quand même un équilibre à trouver. Et on a aussi prévu d'aménager, et c'est en cours d'aménagement, un espace qui sera dédié aux naturalistes et aux scolaires. Donc pas pour le grand public là cette fois-ci, mais un endroit où il y a des cabanes, où on peut se poser, on est un petit peu à l'écart, on peut faire des photos d'oiseaux, on peut accueillir des classes, expliquer, etc.
René Villard, quel est le regard que vous portez sur ce projet qui se réalise aujourd'hui? Nous sommes ici à l'Hippocampe.
Oh ben déjà, c'est une journée extraordinaire parce qu'on concrétise quelque chose qui a démarré déjà depuis quelques années, ce projet écotouristique. Donc voilà, la passerelle, je pense que d'ici le mois de juillet, elle va être inaugurée et que tous les gens pourront l'emprunter. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça va permettre aux gens de faire le tour du lac un peu plus réduit, puisqu'avant, il fallait aller sur le pont de Volonne. Là, les gens passeront par la passerelle. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire.
Maire de Château-Arnoux, vous voyez l'évolution comme ça autour de vous qui se met en place sur bon nombre de projets que vous avez. Celui-ci, vous tenez particulièrement à cœur.
Ça me tient à cœur dans la mesure où on a un camping de l'autre côté et pour le moment, ça fait des années qu'il ne fonctionne pas. J'espérais que en 2020, quand on a été élu, logiquement, il aurait dû rentrer en service, puisque une option avec M. Bravet dessus. Donc aujourd'hui, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas l'accord d'EDF, mais je peux comprendre aussi qu'il soit prudent et qu'il fasse attention dans le fait qu'il donne des autorisations par rapport à ce qui s'est passé dans la Roya, tout un tas de choses. Je pense qu'il faut être prudent. Alors donc, il y a une étude de faisabilité, de savoir un peu par rapport à la crue millénaire, savoir un petit peu les incidences que ça pourrait avoir. Il est bien évident que tout ça, il faut attendre que cette étude soit finie pour enfin peut-être donner l'autorisation de pouvoir transformer le camping comme il avait envie de le faire et dans son projet.
Bernard Tessier, alors en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place?
Eh bien aujourd'hui, on est en train de mettre cette fameuse passerelle. L'entreprise est en train de faire les derniers travaux. Donc c'est l'aboutissement d'un travail, d'un long travail, puisque c'est un projet qui avait été initié au départ par la communauté de Moyenne Durance dans les années 2000 et qui a été repris par Provence Alpes Agglo, parce que Provence Alpes Agglo a la compétence tourisme, équipement touristique. Donc on a pensé que c'était l'endroit qu'il fallait mettre en valeur plus que ce qu'il était. Donc on a beaucoup travaillé avec les associations locale, la Fistule et la LPO, parce que c'est un endroit qui est classé, qui est une réserve ornithologique avec des centaines d'oiseaux qui passent chaque année. Et on voulait surtout, dans un cahier des charges, faire en sorte de ne pas déranger cette biodiversité. Donc tout ça, ça a été respecté et on a abouti, après 4 ans d'amélioration du projet, de mise aux normes, etc., pour arriver aujourd'hui, enfin, à déterminer ce projet qui permettra aux amateurs de VTT de découvrir deux boucles de VTT autour du lac. Auparavant, il n'y en avait qu'une et il fallait aller passer sur le barrage où c'était assez compliqué, puisqu'il y avait une cohabitation avec la route qui était pas terrible, on va dire, pour le VTT. Donc là, ça va offrir deux possibilités et ça va permettre une attractivité, je l'espère en tous les cas, beaucoup plus importante de ce site qui équilibre le territoire, puisque Provence-Alpes Agglo va de Moussier à Seyne-les-Alpes, dont nous avons la montagne. Donc là-bas, il y a toute une offre qui est complète, je dirais, l'offre montagne. On a Moussier, le lac de Sainte-Croix, et on a Digne, l'offre touristique, l'offre culturelle aussi. Et là, il manquait pour le touristique, et je crois qu'on a bien fait d'investir dans ce pôle qui, à mon avis, au fil des années, deviendra très important.
Il y a eu plusieurs phases de concertation. Comment ça s'est passé avec les riverains? Comment ça se passe encore à l'heure actuelle?
Ben, aujourd'hui, on a fini toutes les concertations, si ce n'est qu'on a deux propriétaires qui posent souci, puisqu'au départ, ils étaient d'accord, et maintenant, ils veulent plus céder leur parcelle de terrain. Parce que ce qu'on voulait, c'est que le sentier pédestre soit le plus près possible pour être touristique, on va dire, soit le plus près possible de la Durance. Et donc, on m'a ferraillé là-dessus pour essayer d'acquérir ces terrains. Sinon, le reste, tout est réglé avec EDF. Il y a eu plusieurs phases. Bon, finalement, ils ont donné leur accord complet. Il y a un bon partenariat avec le camping, puisque le sentier du Tour du Lac qui passe par où nous sommes là. Après, il y aura le problème du camping des Salettes à Château-Arnoux, puisque là, normalement, ce camping était prévu d'ouvrir dans les deux prochaines années, mais là, il y a encore quelques soucis, au niveau notamment de la durance et des risques de crue centennale, millénale, bon bref. Mais je pense qu'on y arrivera.
Cinéma de Pays va célébrer les 70 ans de Jeux Interdits.
Le magnifique et poignant film de René Clément avec sa musique inoubliable est sorti en 1952. Tourné dans le Verdon de Castellane à Moustier, dans des paysages aujourd'hui disparus sous les eaux du lac de Sainte-Croix, Jeux Interdits a révélé Brigitte Fossé. La petite fille douée fera carrière sous la direction des plus grands, Truffaut, Blier, Deville, Pinoteau, Sauté, Lelouch, Altman et bien d'autres. En 2019, à Puget-Théniers, pour Les femmes comédiennes, Bernard Chouyal de Cinéma de Pays et un élu de Pérouls ont rencontré Brigitte Fossé. Et pour les 70 ans de la sortie du film, le 9 mai 2022, une série d'animations est prévue en juin avec la présence active de l'actrice sur plusieurs jours. Au programme, outre la projection du film en présence de figurants de l'époque toujours en vie, un hommage sera rendu à Roger Ayot, cinéaste du Verdon dont la vocation est née dans les pas de René Clément. Cédric Gisondi, pour Cinéma de Pays, répond aux questions d'Odile Frison et présente le programme de cet événement.
Cédric Gisondi, un événement se prépare qui aura lieu dans un mois en raison d'un anniversaire qui a lieu, lui, le 9 mai, avec la venue de Brigitte Fossé.
Alors oui, c'est un événement qui va initier le 9 mai, puisque le 9 mai 1952 sortait le film en salle Jeux Interdits. Et donc ce film Jeux Interdits a été tourné essentiellement dans le 04, donc chez nous. C'est pour ça que c'est une date que nous avons voulu mettre en évidence avec la venue de l'actrice phare qui avait 5 ans à l'époque, Brigitte Fossé. Et donc ce 9 mai, nous allons fêter cet anniversaire et ça sera un mois avant l'événement du programme que nous allons mettre en place pour sa venue.
Un programme qui va démarrer à partir du 14 juin, un événement organisé par Cinéma de Pays.
Voilà, en partenariat. Oui, avec plusieurs communes et plusieurs organismes, culture, loisirs, patrimoine à Sainte-Croix, la commune de Pérouls, la commune de Moustier, celle de Sainte-Croix et des Guines, et Mémoire des Salles et le conseil départemental 04. Donc c'est une belle organisation avec pas mal de partenaires. En fait, le 9 mai, c'est la date anniversaire et on a voulu mettre en avant la date anniversaire un mois avant l'événement de la venue de Brigitte Fossé, puisqu'elle viendra le mardi 14 juin, pendant 3-4 jours. C'est 3 jours d'animation sur les pas et les traces de Jeux Interdits. Plusieurs temps forts vont être organisés. Le premier, c'est mardi 14 juin à 19h, avec une lecture de texte de Jean Giono, qui vont être lus par Brigitte Fossé, qui aime beaucoup les lectures et cet auteur. Et donc, à l'église Notre-Dame de l'Assomption, à 19h, il y aura cette soirée publique avec un tarif de 10 euros. Donc, comme il n'y a pas de réservation, il faudra venir un peu tôt. Ça, c'est le premier événement. Mercredi 15 juin, il y aura, avec le Conservatoire départemental de musique, une obade musicale sur des thèmes de Jeux Interdits, que beaucoup connaissent, à 18h, sur le parvis de la galerie de l'ancien presbytère, toujours à Moustier. À 18h30, il y aura l'inauguration d'une exposition qu'on a créée spécialement pour l'occasion. Une exposition qui met en avant le film Jeux Interdits à travers le pont des Guines qui a été enseveli, englouti par les eaux plutôt. Et une deuxième partie sur un hommage à Roger Ayot qui est agriculteur cinéaste du Verdon. On pourra voir des documents d'archives, des maquettes, des photos, des cartes postales, des diaporamas, des témoignages d'anciens figurants qui ont participé au film. Il y a pas mal de moussiérins et à travers l'histoire du pont, on va revoir cette scène emblématique de Brigitte Fossé qui court sur le pont sous les bombardements en début du film. Ça, c'est la première partie de l'exposition. Et la deuxième partie qui sera un coup de projecteur, un hommage à Roger Ayot cet agriculteur cinéaste du Verdon qui, suite au tournage de Jeux Interdits, à l'époque, il s'est acheté une caméra. Il a filmé son environnement familial, mais pas que. On voit des images de Moustier, des gorges du Verdon, de Riez, Roumoul. Et en fait, c'est comme une chronique du monde rural et agricole. Parce que cet agriculteur, il n'avait pas que le talent de l'agriculture. Il filmait, il dessinait, il peignait, il chantait, il jouait de l'accordéon. Donc tous ces talents vont être mis en avant dans cette exposition. C'est comme un témoignage universel et original de cette époque, des années 50-60. Pour continuer dans le programme, on finira à Péroul, donc à deux pas de Castellane. C'est vraiment le deuxième lieu emblématique du film, puisque c'est là qu'ont été tournées aussi des scènes de Jeux Interdits. Donc avec des surprises qui vont être faites pour Brigitte Fossé, une projection du film Jeux Interdits public. On va inviter la population à venir le voir et rencontrer l'actrice. Donc on aura sûrement l'occasion d'en parler sur vos antennes.
C'est le dernier jour qu'il y aura la projection du film.
Il y aura une projection à Péroul le jeudi 16 juin, mais il y aura d'autres séances supplémentaires dans le Verdon qui seront projetées à partir du 18 juin. Donc 18 juin, il y aura à 15h la projection du film de Roger Ayot et à 18h Jeux Interdits. Donc là, Brigitte Fosséré sera partie. Et tout au long de l'été, d'autres projections seront programmées, donc à Éguines, Sainte-Croix, Moustier, Les Salles, donc c'est d'autres partenaires du programme de cet événement. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que cette exposition, elle sera inaugurée le 15 juin, mais elle sera du 15 juin au 3 juillet à la galerie de l'ancien presbytère et elle sera en entrée libre tous les jours. Donc on pourra venir voir ces deux expositions en une, qui permet de mettre en valeur Roger Ayot, cet agriculteur cinéaste du Verdon, et le pont d'Éguines, puisqu'on va voir une maquette du pont d'Éguines, on va voir des témoignages de figurants qui ont participé au film Jeux Interdits, et un beau partenariat avec le centre de loisirs de Moustier qui va réaliser une fresque sur le pont d'Éguines. Ça, c'est un beau partenariat avec les enfants du village qui permet de faire un lien avec hier et aujourd'hui, le pont qui n'existe plus.
Et je voulais revenir sur Péroul, puisqu'on a parlé du pont, évidemment, qui avait son importance, le pont d'Éguines, mais Péroul a une grande importance aussi.
Eh oui, parce que c'est à la foule de Péroul, précisément, que la majorité du film a été tournée. Et c'est pour ça que nous avons la mairie de Péroul qui est partie prenante et qui est co-organisatrice de cet événement. C'est à la foule de Péroul qui a été tournée les scènes de l'église. Il y a pas mal de moments du film et de figurants qui habitent Péroul qui seront là pour témoigner lors de la venue de Brigitte Fossé. Comme par exemple Noël Giraud, qui est un des anciens élus de la commune de Péroul, qui, quand il était à l'école, allait voir ce fameux tournage qui se tournait pas loin de sa commune avec sa maîtresse et tous ses camarades de classe. Donc c'est des souvenirs qui sont gravés dans sa mémoire. Et lors de cet événement, on pourra échanger avec Noël sur les souvenirs qu'il a gardés.
Projet d'abattoir mobile pour une mort animale digne.
Depuis 4 ans, un collectif d'une vingtaine d'éleveuses et éleveurs de chèvres et brebis répartis entre le sud Luberon, les monts de Vaucluse et le pays de Fort-Calquier œuvre pour la création d'un abattoir paysan respectueux des animaux et des hommes et femmes qui y travaillent. Cet abattoir mobile sera composé d'un semi-remorque et de 2 ou 3 plateformes d'accueil réparties sur le territoire au plus près des élevages. Ce projet innovant est soutenu par le Parc du Luberon et il compte parmi les projets en cours expérimentés en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, ce collectif fait appel à un financement participatif sur le site Mimosa, à la page « D'un élevage respectueux à une mort digne de nos animaux ». Depuis le magasin de producteurs locaux Univers Paysan à Fort-Calquier et au micro de Mathieu Marc, Marie-André et Florian Jean, tous deux éleveurs d'ovins à Pierre-Rue, détaillent ce projet qui verra le jour au plus tôt d'ici l'été 2023. Marie-André.
Actuellement, le collectif représente une vingtaine d'éleveurs, un gros groupe sur le sud Luberon qui a initié le projet et un petit groupe qui démarre sur le secteur de Fort-Calquier. En origine, c'est vraiment les éleveurs chevriers du sud Luberon qui ont décidé de se réapproprier la filière du chevreau et donc d'essayer de trouver une solution éthique et morale et pratique à cette nouvelle filière.
Morale, c'est-à-dire que le bien-être animal est au centre de vos préoccupations, j'imagine. Et en l'occurrence, se réapproprier ce moment de la mort, c'est important pour quelqu'un qui élève ses bêtes ?
Complètement, c'est vraiment ce qui nous motive, c'est le point central du projet. C'est étant donné qu'on fait naître nos animaux, on les accompagne, on les vend aussi aux clients. Et il nous manque clairement l'étape de l'abattage où on les laisse. Et donc c'est d'assumer cette partie, pas simple, mais il faut qu'elle soit faite et qu'elle soit faite correctement.
Ce type d'abattage semi-mobile, puisqu'il y a aussi des placettes qui vont avec ce dispositif, ça va aussi avec un type d'élevage spécifique que vous défendez ?
Oui, bien sûr. Actuellement, il y a déjà une charte que nous avons mis en place pour rentrer dans l'association Abattoir Mobile du Luberon. Les animaux vont forcément à l'extérieur, ils seront tous nés sur la ferme. Donc il y a aussi une partie éthique de l'élevage avant l'abattage.
Est-ce que vous pouvez nous décrire comment va se passer cet abattage, c'est-à-dire physiquement avec ce camion et cette place ?
Donc en fait, ce seront les éleveurs qui seront présents avec leurs animaux. Chaque éleveur accompagnera ses animaux jusqu'à la mise à mort. Et ensuite, il y a 4 éleveurs qui seront dans le camion d'abattage et qui réaliseront toutes les tâches. Suite à ça, les carcasses sortiront sur la placette dans une chambre froide.
Pour l'instant, c'est au stade de projet. Vous travaillez avec des partenaires ?
Oui, on a des encadrants, un consultant, un ancien directeur d'abattoir qui nous suit, qui nous permet de monter le projet. On travaille avec le parc du Luberon également. Et donc, on a mis en place la campagne Mimosa, qui est en cours actuellement, pour nous permettre d'embaucher quelqu'un qui nous aidera à suivre le projet, à monter toute la partie administrative.
Qu'est-ce que c'est qu'un projet Mimosa ?
C'est une campagne participative, en fait, donc qui se fait sur Internet, où les gens donc peuvent donner de 20 euros à 500 euros et plus avec une contrepartie, donc selon le montant. Et donc ça va vraiment nous permettre de récupérer de l'argent pour recruter quelqu'un.
Florian Jean, vous aussi, vous êtes éleveur d'ovin à Pierru et vous faites partie de ce projet. Vous parliez tout à l'heure du fait que les moments d'abattage, ce sont aussi des moments de commun, de collectif, et que ça fait partie aussi de ce que vous avez envie de défendre dans ce projet. Je trouve que c'est quelque chose d'important dans l'outil de travail aujourd'hui. On en parle assez peu de cet outil commun.
Oui, voilà, c'est aussi d'avoir des périodes, quoi, des travaux qui sont assez, on va dire, compliqués, qu'ils soient ou physiques ou émotionnellement, et le fait de pouvoir les faire à plusieurs en collectif, on va dire, ça amène un peu de la gaieté dans le travail qui est pas forcément gai.
Concrètement, cet abattoir, pour l'instant, il est à l'état de plan et de projet. Vous en êtes où ?
On est sur les plans donc des placettes. On est sur le projet aussi d'avancer sur le lieu des placettes. Voilà, il y a plusieurs, on avance sur plusieurs fronts en même temps.
Sur ces lieux des placettes, j'imagine que vous n'avez pas forcément un endroit précis pour l'instant, mais est-ce que vous avez des zones géographiques ?
Dans l'idéal, donc, comme on est sur le secteur du Luberon, dans l'idéal, il nous faudrait une placette dans le secteur communauté de communes Fort-Calquier et Montagne de Lure, une aux alentours d'Apt, on va dire, et une plutôt sud Luberon, aux alentours de Cadenet, Cavaillon, par en bas, quoi. Pour bien partager, pour bien répartir la zone géographique du Luberon.
Pour la suite, est-ce que vous avez une visée de date d'aboutissement du projet ou pas ?
Dans l'idéal, on aimerait partir sur fin 2023, mais tout va dépendre de beaucoup de choses. On a tellement encore d'étapes à passer que voilà, dans l'idéal, on se dit ça. On perd pas espoir sur un peu plus tard, c'est pas grave.
Et vous êtes prêt aussi à rencontrer aujourd'hui de nouveaux éleveurs qui seraient aussi dans votre type d'élevage, puisque vous défendez un type d'élevage un peu particulier.
Oui, là, la porte est ouverte à tout le monde, les forces vives sont les bienvenues, il n'y a pas de soucis, même si des gens veulent en discuter avec nous, des gens, des consommateurs qui veulent aussi s'impliquer à leur échelle, voilà, il n'y a pas de soucis, la porte est ouverte à tout le monde.
Et si on veut découvrir ce que vous proposez, vos produits, eh bien, on peut se rendre à Univers Paysan, à Fort-Calquier.
Voilà, par exemple, Univers Paysan, vous trouverez les produits de Marie et de moi-même. Voilà, nous, on a aussi un point de vente collectif là, à la ferme. Voilà.
la fête de la Saint-Pancras est de retour à Manosque.
Impactée par la crise sanitaire, la fête traditionnelle de la cité de Girno fait son grand retour après 2 années d'interruption. Fête foraine au terreau, montée au flambeau vers toutes heures, foire commerciale et parades circassiennes sur le tour de ville, les journées seront animées. Un accent est mis sur la chapelle Sainte-Pancras, en haut de la colline de Toutesor, où le roi d'Oskomanosko fera plusieurs prestations et où ses chants et danses alterneront avec des spectacles de jonglerie, des clowns et des cracheurs de feu. Tradition et modernité dans le but commun de divertir. Je vous propose d'écouter 2 élus manoskines, Valérie Pesson et Brigitte Dampton, qui présentent l'édition 2022. Valérie Pesson, vous êtes adjointe au maire de Manosque, et Manosque qui va se mettre en 4 pour la fête traditionnelle Saint-Pancras.
C'est bien ça, du 5 au 9 mai, on va essayer de dynamiser la ville avec les traditions d'un côté, notre promenade vers la chapelle de Toutesor le soir du vendredi, à la montée au flambeau, d'embraser le champ à côté de la chapelle Toutesor, mais pas le champ, on va faire un grand feu de joie avec une cracheur de feu, un petit apéritif dédié aux enfants, et ensuite, le samedi, on aura le soir à 21h, la grande parade circassienne qui va animer tout le pourtour de la ville, de la porte Soubéran jusqu'à la porte Sonnerie, pour une bonne 1h30 de spectacle vivant.
Avec un bon bilan carbone et en même temps un nettoyage des rues qui ne se fera pas puisque c'est plus facile que lorsqu'il y a des chars et des confettis.
C'est ça, tout à fait. Nous avons voulu passer, profiter de cette période de Covid où nous n'avons rien pu faire forcément, à quelque chose de plus spectaculaire, dédié vraiment à l'art du cirque, aux troupes qui sont sur site et qui amènent de la vie, parce qu'il y aura des maquillages pour enfants, en même temps en nocturne que la déambulation se fera. Donc ça va être quelque chose de très très nouveau sur la ville de Manosque. On espère avoir le temps qui s'y prête.
C'est vrai que pendant 2 ans, il n'y a pas eu de fête de Saint-Pancras à Manosque. Vous essayez de vous rattraper.
C'est ça, tout à fait. Puis les gens, je crois qu'ils ont aussi envie de se rattraper, de faire la fête. On aura la fête foraine sur le terreau aussi pendant 4 jours. Donc ça sera un moyen pour eux d'aller aussi faire les fous sur les manèges et puis consommer les meilleurs chichis de la région.
Des chichis qui seront distribués également dans les EHPAD à Manosque.
C'est ça, le lundi, il y aura une distribution de chichis dans les EHPAD qui sont beaucoup appréciés, mais c'est vrai que ça avait manqué aux pensionnaires depuis ces 2 dernières années, forcément.
Alors, à vos côtés, une de vos collègues qui est élue, qui représente le roi d'Oskomanosko, autrement dit l'ensemble traditionnel de Manosque, Brigitte Dampton, vous êtes évidemment de la partie.
Oui, tout à fait, je suis de la partie. La preuve en est, c'est que je suis une élue qui porte son costume traditionnel. J'appartiens au roi d'Oskomanosque, où nous avons quand même des traditions que nous maintenons. La fête de la Saint-Pancras, cette année, pour nous, est d'autant plus importante que ça fait 2 années que nous n'avons pas fait la montée au flambeau. Il faut savoir aussi qu'à 18h, le soir de la montée au flambeau, nous avons la messe. C'est une messe traditionnelle qui existe depuis des temps immémoriaux. Le roi d'Oskomanos qui vient depuis 1935, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et ce qui est surtout important, c'est qu'il ne faut pas rester dans le passé. Le roi d'Oskomanos porte des costumes traditionnels, c'est sûr, mais ce sera un mélange de moderne et de tradition. Et chacun y trouvera son compte. Les manosquins, les néo-provençaux et les gamins, parce que les gamins se régalent de venir danser autour d'un feu de joie.
Se rappeler de ses racines et puis en même temps de profiter de l'animation habituelle quotidienne avec notamment cette parade circassienne, ce sera de grands moments.
Absolument, même si le Rode ne participe pas à cette parade circassienne de manière spectaculaire, nous soutenons vraiment cette action et surtout, comme l'a dit Valérie tout à l'heure, c'est cette empreinte carbone. Nous n'avons plus de confettis, nous n'avons plus de déchets et ça c'est essentiel pour une ville comme Manosque qui tend vers une ville zéro déchet.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier pour la régie et à la semaine prochaine.